السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، ابن ماجه، الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى nous rapporte un grand hadith de ce noble compagnon des 10 premiers au paradis, Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu. Il nous dit que deux hommes sont venus de Bali. C'était un endroit non loin de Medina, où ils avaient comme religion la voix des gens du livre. Tous deux se sont rendus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se sont convertis ensemble à l'islam. فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْآخَرِ. Et l'un des deux était plus ardent, plus motivé, plus fort dans l'adoration d'Allah azza wa jal que le deuxième. Et lors d'une expédition militaire, l'un des deux est tombé au combat martyr. مَكَثَ الْآخَرُ بَعْدَهُ سَنَةً ثُمَّ تُوفِّي. Le deuxième a vécu une année en plus, puis il est décédé. طَلْحَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dit « فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ بَيْنَ أَنَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ إِذْ أَنَا بِهِمَا. » Talha radiallahu anhu nous dit « C'est alors que j'ai vu en rêve. Je me trouvais à la porte du paradis et il y avait ces deux hommes. « فَخَرَجَ خَارِجٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَأُذِنَ لِلَّذِي تُوفِيَ الْآخِرَ مِنْهُمَا. » Alors qu'ils étaient aux portes du paradis, on sortit du paradis, probablement un ange est sorti du paradis et a permis à celui qui est décédé tardivement, l'année suivante, d'entrer au paradis. Puis, il est venu à nouveau et a permis à celui qui est tombé martyr au combat d'entrer au paradis. Et avant de lui permettre d'entrer, il lui a dit irdi fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Retourne, on ne t'a pas encore permis. C'est-à-dire que celui qui faisait moins d'adoration, celui qui était moins fort dans l'adoration d'Allah, l'ange l'a fait entrer au paradis. Lui a permis d'entrer au paradis. Quant au premier, celui qui était plus fort dans l'adoration d'Allah et qui est décédé au combat martyr, celui-ci, on lui a dit, retourne, c'est-à-dire attends, patiente, tu n'as pas encore reçu la permission. فَأَصْبَحَ طَلْحَةُ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسِ. À son réveil, au matin, Talha a raconté cela aux gens. Il a raconté son rêve. فَتَعَجَّبُوا لِذَلِكَ. Ils se sont étonnés de cela. De quoi ? Du fait que celui qui en apparence était le plus pieux n'entre pas en premier au paradis et qu'on le fasse ainsi attendre et que celui qui semblait moins pieux soit entré plus rapidement. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَحَدَّثُوهُ الْحَدِيثِ. Cette information est parvenue au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont raconté ce récit. Il leur a donc dit, « Min ayyi dhalika ta'jabun ?» Qu'est-ce qui vous étonne en cela ?« Faqalu ya Rasulallah, hadha kana ashadd ar-rajulayn ijtihadan thumma ijtushid. » Ils lui ont dit au messager d'Allah, « Mais ce dernier était le plus fort en effort dans l'adoration d'Allah. En plus de cela, il est décédé martyr. » وَدَخَلَ هَذَا الْأَخِيرُ أَوِ الْآخِرُ الْجَنَّةِ قَبْلَ Et le deuxième est entré au paradis avant lui. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Le messager d'Allah صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ a dit أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً N'est-ce pas que celui-ci a vécu une année entière après lui? Ils ont répondu, certes. قال وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة. Il a atteint le mois de Ramadan et a jeûné et a prié ceci et cela comme nombre de prosternations dans l'année. قالوا بلى. Ils ont répondu, certes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: فَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Alors, l'espace qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire au paradis, ou dans la valeur, est semblable à la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Est semblable à la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Voici un grand hadith rapporté par Talha ibn Ubaidillah, qui nous montre le grand bienfait d'avoir atteint le mois de Ramadan en vie. Et c'était le sujet de la khutba de mon masjid. Et subhanallah, mon père m'envoie un audio, hafidhahullah wa faqahu wa shafa, pour me raconter ce hadith, et il me dit c'était le thème de la khutba chez lui également. Ce hadith nous montre que le meilleur croyant est comme a dit le prophète alayhi salat wa salam, man tala umruhu wa hasuna amalu. Celui dont la vie a été allongée et qui a eu des bonnes œuvres. On voit également dans ce hadith le grand bienfait d'être arrivé en vie dans le mois de Ramadan. Et qu'en jeûnant ce mois et qu'en priant, il y a un nombre de bénédictions et de hasanat que nul ne peut énumérer si ce n'est Allah subhanahu, nul ne peut dénombrer si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit reconnaître ce grand bienfait, remercier Allah azza wa jal et montrer à Allah le meilleur de nous-mêmes durant ce mois, en commençant par préserver notre jeûne, puis et les prières de nuit, quant aux prières obligatoires, elles sont préservées en tout temps, en tout mois. Ceci étant dit, nous allons étudier le plus grand point que nous nous devons de préserver durant la journée du mois de Ramadan, à savoir Mufattiratu siyam, mubtilatu, les annulatifs du jeûne. Parmi la science obligatoire que nous devons de connaître, nous les jeûneurs, c'est il y a tout ce qui annule le jeûne de la journée du mois de Ramadan. Le premier point, el-aklu wa shurb, le fait de manger ou de boire dans la journée de Ramadan. Car Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Quel est donc le premier annulatif du jeûne? Le fait de manger et de boire. Car Allah subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens du verset, nous dit « Et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir, c'est-à-dire le fajr, l'apparition de l'aube. Puis, poursuivez votre jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire au coucher du soleil. » Donc, manger et boire font partie des annulatifs du jeûne, comme c'est mentionné dans Surat al-Baqarah. Ajoutez à cela le hadith Qudusi dans le Bukhari, Allah Azza wa Jal nous dit « Yada'u ta'amahu ou yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli » Il délaisse sa nourriture, sa boisson et son désir pour moi. Donc le jeûne, c'est délaisser ses annulatifs. Parmi ses annulatifs, la nourriture et la boisson. Et il y a le consensus à ce sujet. On rattache à cet annulatif tout ce qui entre dans le corps, tout ce qui entre dans le corps par la bouche ou par le nez. Tout ce qui entre dans le corps par la bouche ou par le nez. Celui qui mange, avale volontairement une chose qui de base ne se consomme pas, n'est pas comestible, ça annulera quand même son jeûne. Ça annulera quand même son jeûne. Et celui qui s'introduit des choses par le nez, il aura aussi annulé son jeûne si ça rentre. Naam. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que le nez était un conduit qui pouvait annuler le jeûne. En effet, il nous dit « Baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima » Exagère, c'est-à-dire fais bien rentrer l'eau au fond des narines lorsque tu fais tes ablutions, lorsque tu mets de l'eau dans les narines pour faire tes ablutions, sauf lorsque tu es en état de jeûne. Les savants ont tiré de ce hadith que de faire entrer l'eau par les narines jusqu'à ce que ça pénètre, c'était un conduit qui annulait le jeûne. C'est un conduit qui annulait le jeûne. Ajoutez à cela les piqûres et les intraveineuses nutritives. Contrairement à ce qui est injecté pour calmer la douleur, aux piqûres anesthésiantes. Donc, si la personne reçoit une piqûre qui nourrit, qui lui injecte des forces, des nutriments, qui nourrit son sang, nourrit donc son corps, il aura annulé et rompu son jeûne. Donc, al-ibar al-muradhiya min al-mufattirat. Pareillement pour ceux qui prennent des vitamines. Aussi, les savants ont divergé sur le lavage des reins, la dialyse. Certains disent que ça annule le jeûne parce que ça renforce. Ça renforce. Wallahu a'lam. Voici le premier annulatif. Le deuxième est taqayyu amdan. Se faire vomir volontairement. si c'est minime ce qui sort, ça n'annule pas. Mais si la personne vomit, à partir du moment où on appelle cela vomir, ça annule son jeûne. Car Abu Huraira radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, من ذرعه القيء فليس له قضاء ومن استقى عمدا فليقضي. Celui qui vomit involontairement, n'a pas à rattraper. Et celui qui se fait vomir volontairement, qu'il rattrape. Apporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Donc, celui qui a vomi involontairement ou qu'on a fait vomir, lui n'a pas rattrapé son jeûne et il est valable. Quant à celui qui se fait vomir volontairement, par exemple parce qu'il est malade ou autre, il devra rattraper un jour. Que ce soit en mettant ses doigts dans sa gorge, que ce soit en sentant volontairement ou en regardant avec insistance volontairement une chose répugnante, nauséabonde, afin de se faire vomir. S'il ne vomit pas, il n'a pas annulé son jeûne. S'il vomit, il aura annulé son jeûne. Le troisième annulatif, خروج دم الحيض والنفاس, la sortie et l'écoulement des menstrues ou des lochies. Si l'écoulement a lieu avant le coucher du soleil. Si l'écoulement a lieu avant le maghrib, le jeûne est annulé. Ne serait-ce que d'un instant. Et elle doit le rattraper. Donc, la femme qui a l'écoulement de menstrues ou de lochies avant le maghrib, même un instant, elle a annulé son jeûne de ce jour. Elle doit le rattraper. Et ce qui compte, c'est l'écoulement, la sortie. Non pas le mouvement interne et le ressenti des signes. Des douleurs ou autres. Non, seulement l'écoulement. À l'inverse, si le soleil se couche et que juste après là, l'écoulement, le jeûne de ce jour-là est valable. Le jeûne de ce jour-là est valable et elle n'a pas à le rattraper. Le quatrième annulatif, c'est le maout, la mort. Allah allonge notre vie et la vôtre dans son obéissance. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit, إِذَا مَاتَ بْنُ آدَمٍ قَطَعَ عَمَلْهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Lorsque le fils de Adam décède, ses actions se coupent, s'interrompent, sauf trois. Donc, le jeûne, c'est une action, c'est un acte d'adoration, il s'arrête également. Quel est l'intérêt de savoir cela? On pourrait se dire, de toute façon, il est mort. Pourquoi parler de cette question religieuse? Un des intérêts, déjà sache que lorsque les fuqaha, les savants parlent, il y a un intérêt. Lorsque les savants citent des termes spécifiques et particuliers, non habituels, il y a une sagesse. Donc, ils ont parlé de la mort dans les annulatifs, parce que si le jeûne qu'il accomplissait en ce jour de décès était un jeûne obligatoire pour lui comme un vœu qu'il avait formulé, et qu'il décède durant la journée avant le Maghrib, ses héritiers devront le jeûner pour lui. Ses héritiers devront rattraper ce jour. Alors que s'il décède à partir du Maghrib, ce jeûne sera valable et ils n'auront pas à le rattraper. Ou s'il avait une expiation, par exemple, et qu'il devait jeûner, et qu'il décède durant ce jour, eh bien, ils devront jeûner pour lui. Et jeûner pour lui, ou d'autres savants disent, ils n'ont pas l'obligation de jeûner, ils peuvent jeûner, et s'ils veulent, ils nourrissent un pauvre. Ainsi, tu vois l'intelligence des savants, et ô combien ils sont méticuleux et précis dans les thèmes abordés et dans les termes utilisés. Barakallahu fikum. Parmi les annulatifs du jeûne, ar-ridda, le fait de sortir de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Et la personne sort de l'islam, soit par une mauvaise croyance, soit par une mauvaise parole, soit par une mauvaise action, soit par un délaissement. Voici les quatre points par lesquels la personne peut perdre le plus grand bienfait. Une croyance, une parole, une action ou un délaissement. Il délaisse une chose sans laquelle son islam ne peut tenir. Allah nous dit « La in ashrakta la yahbatanna amaluk » Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun » Et si ils avaient commis le polythéisme, toutes leurs œuvres deviendraient vaines. Donc si la personne sort de l'islam, ses œuvres sont annulées. Ses œuvres sont annulées. Le sixième annulatif du jeûne, قَطْعُ نِيَّةِ الصِّيَامِ, interrompre son intention de jeûne. Interrompre et couper son intention du jeûne. Toi, ton intention t'accompagne. Tu l'as formulée dans ton cœur au début du mois. Elle ne s'interrompt pas, elle t'accompagne tant que tu es dans le mois de Ramadan, n'est-ce pas? Puis elle s'interrompt ou se coupe suite à un événement, comme les menstrues, comme la maladie où tu as coupé ton jeûne, comme le voyage où tu as coupé ton jeûne, et ainsi de suite. Mais il y a une autre manière de couper son jeûne, c'est de rompre l'intention, de sortir de cet accompagnement que tu avais. L'intention t'accompagnait, et ben toi tu l'interromps, tu la coupes. Là-bas c'est qu'elle te suit, mais volontairement, le serviteur peut l'interrompre et la couper. Alors il annulerait son jeûne. Et vous savez que parmi les conditions d'authenticité du jeûne, il y a l'intention. S'il coupe l'intention, il aura annulé ce jour de jeûne. Pas tout ce qu'il a accompli avant, ce jour de jeûne seulement. Barakallahu fikum. Et dans le hadith, innamal a'mal ou bin niyat, les œuvres ne valent que par les intentions. Contrairement aux pensées, contrairement aux insufflations sataniques, contrairement à l'intention de couper dans le futur. Tout cela n'affecte pas, tout cela n'annule pas le jeûne. Celui qui dit, par exemple, étant en voyage, il sait qu'il a le droit de rompre le jeûne, « Ah, il fait trop chaud aujourd'hui, dès que je trouve un vendeur d'eau, je coupe mon jeûne. » Et lui, il a rattaché la coupure du jeûne au futur. Il n'a donc pas coupé son intention. Son jeûne est valable, tant qu'il n'a pas rompu en buvant de l'eau, par exemple. Quant à celui qui dit dans son cœur qu'il arrête de jeûner, il coupe son jeûne, il brise son intention, lui, il coupe sur le fait. Il coupe dans l'instant. Il n'est plus en état de jeûne, même s'il n'a rien bu, rien mangé. Barakallah fikoum. Parmi les annulatifs sur lesquels les savants ont divergé, il y a al-hijam, al-ihtijam, la saignée, le fait de faire sortir le sang. Car il y a le hadith, aftara al-hajim wal-mahjoum, celui à qui on fait la saignée et celui qui la pratique ont tous deux rompu le jeûne. Cependant, certains savants sont d'avis que ce hadith a été abrogé. Certains savants sont d'avis que ce hadith a été abrogé. Quoi qu'il en soit, la sécurité prime. Vaut mieux pour celui qui a besoin de faire la hijama, la faire le soir, la faire de nuit, ou alors il pratique les ventouses, l'aspiration seulement, sans ouverture, la hijama sèche, si c'est ainsi qu'on dit. Naam. Donc, et c'est un remède qui n'est pas considéré par beaucoup à sa juste valeur, alors que ça fait partie des remèdes prophétiques connus et pratiqués par le prophète alayhi salat wa salam et sahaba. Et il y a un grand remède dans cela. Néanmoins, il faut se rendre auprès des connaisseurs. Il faut se rendre auprès des connaisseurs sans mépriser ceux qui ont fraîchement acquis ces connaissances-là. Naam, il faut se rendre auprès de connaisseurs. Et ceux qui ont fraîchement obtenu ces connaissances-là doivent se former auprès des connaisseurs et recevoir d'eux la permission d'exercer. Barakallah fikoum. Un autre point sujet à divergence, c'est le fait d'avaler la salive ou bien les glaires ou bien ce qui descend du haut lorsqu'on se mouche, par exemple. Naam. An-nukhama. Je ne sais pas comment dire en français, en langage courant. La substance obtenue lorsque l'on racle sa gorge pour se débarrasser de glaire et qu'on les crache. Vulgairement, ça appelait un molar, mais je cherche un terme plus soutenu. Vous m'en ferez part, inshallah ta'ala, si vous le savez ou vous le trouvez. Donc, il y a une différence entre ce qui remonte et ce qui descend. Ce qui est déjà sous la gorge et qui remonte, d'accord, tu le recraches ou tu l'avales, ça n'annule pas ton jeûne. Mais attention à ce qui descend de la tête, du circuit, du haut du nez et ainsi de suite. Si ça descend et que ça atteint directement la gorge, ça c'est un fait. Mais si ça descend et que ça passe par la bouche, c'est un corps étranger qui est venu à la bouche, tu ne dois pas le faire entrer dans la gorge. Parce que certains savants disent que ça annule le jeûne, parce que ça entre dans la définition de ce qui annule le jeûne. C'est un corps étranger qui est rentré et qui a été avalé. Ça peut donc être considéré comme un des annulatifs du jeûne. Donc on fait particulièrement attention à cela. Quant à la salive et autres, les savants disent que c'est excusé parce que c'est dur de s'en préserver. Donc tout ce qui est difficile, naam, c'est excusé. Mais ce qui est rare et facile à rejeter, voici ce qui n'est pas excusé chez certains savants. Barakallahu fikum. Tout ce qu'on a mentionné, celui qui l'accomplit aura annulé son jeûne et il devra rattraper un jour de jeûne seulement. Puis s'il a commis une faute et que c'était un péché, en plus de cela, il doit se repentir. Passons maintenant au deuxième type d'annulatif du jeûne. Pardon, j'ai oublié. Al-istimna, la sortie du liquide reproducteur. La sortie du liquide reproducteur, quelle que soit la manière. Que ce soit en s'amusant avec l'épouse, que ce soit en regardant une chose qui suscite le désir, que ce soit l'action de la personne elle-même sur sa partie et ainsi de suite. Quelle que soit la manière, dès lors que son eau sort, il aura annulé son jeûne. Il aura annulé son jeûne. Il devra donc rattraper, il devra se repentir et rattraper ce jour. Et ceux qui annulent leur jeûne en commettant des fautes volontaires n'ont pas la permission ensuite d'aller boire et manger le reste de la journée. Ils doivent maintenir l'état de jeûne, bien qu'il ne sera pas comptabilisé, ni valable, ni récompensé. Et en plus de cela, elle devra le rattraper. Passons à la deuxième sorte d'annulatif du jeûne, qui est extrêmement grave, et où la personne n'aura pas simplement à rattraper ce jour. Mais en plus de ça, une expiation sévère. Il s'agit de al-jima'. Il s'agit d'avoir des rapports avec la femme. Il doit se repentir, rattraper ce jour, et en plus, il y a l'expiation sévère. Car il a fait cela dans un mois béni. Quelle est l'expiation? Qui concerne-t-elle? Abu Hurayra radiallahu anhu nous dit qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, « Ya Rasulallah halakt, au messager d'Allah, j'ai péri, je suis anéanti. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Wa ma halakak. » Mais qu'est-ce qui t'a fait périr ?« Ou malak, que t'arrive-t-il » Il a dit, « Wa qa'tu ala mra'ati wa ana sa'im. » Il a dit, « J'ai eu des rapports avec mon épouse alors que j'étais en état de jeûne. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Hal tajidu raqabatan tu'tiquha ?» Il lui a dit, « Est-ce que tu trouves un captif que tu peux affranchir ?» Qala la, il lui a dit non. Qala hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ayn? As-tu la capacité de jeûner 2 mois consécutifs? Qala la, il lui a répondu non. Faqala hal tajidu it'ama 60 miskina? Il lui a dit, est-ce que tu trouves de quoi nourrir 60 pauvres? Qala la, il a dit non. Le prophète alayhi salat wa salam est resté ainsi un moment. Et alors que nous étions ainsi, une personne est venue auprès du prophète alayhi salat wa salam et il lui a donné un seau de dattes. Naam. Ou il lui a donné des dattes en quantité. Le prophète alayhi salat wa salam a alors dit, « Aina sa'il, où est celui qui m'interrogeait ?» Il a dit, « Je suis là. » Il lui a dit, « Khudha, prends cela, fatasaddaq bi, et donne-le en sadaqa, en aumône. » L'homme a alors dit, « Awa ala afqara minni ya Rasulallah, dois-je donner cela à plus pauvre que moi, au messager d'Allah ?»« Fawallahi ma bayna la batayha ahla baytin afqara min ahli bayti. » Il n'y a pas entre les deux, ces deux limites, yani dans Médine, de foyer plus pauvre que le mien. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. Le prophète عليه الصلاة والسلام a ri jusqu'à ce que ses incisives se dévoilent, se découvrent. Quand le prophète riait, il souriait. Et quand il riait beaucoup, Naam, ça n'était pas des éclats de rire, mais il souriait jusqu'à ce que ses incisives paraissent. Sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qal at'im hu ahlak. Puis il lui a dit, nourris avec ta famille. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc, la personne doit jeûner 2 mois consécutifs. Celui qui a un rapport avec la femme doit jeûner 2 mois consécutifs. Que ce soit de manière licite, qu'elle lui soit licite, qu'elle ne lui soit pas. Que ce soit de par la partie permise ou de par la partie illicite. Que ce soit le matin ou que ce soit l'après-midi. À partir du moment où c'est du Fajr au Maghrib, compris entre ce laps de temps, il a commis ce péché grave et il doit faire l'expiation. S'il n'a pas la capacité de jeûner 2 mois consécutifs, et quand on dit 2 mois consécutifs, c'est sans rompre, c'est sans sauter de jour. C'est-à-dire, il jeûne du Fajr au Maghrib tous les jours et il coupe pour le Maghrib, il reprend le lendemain. S'il manque un jour, les savants disent, il recommence. 60 jours, ou plutôt 2 mois. 2 mois. Donc de 58 jours à 60 jours. Ça peut être, parce que le mois peut être de 29 jours ou de 30 jours. S'il n'a pas la capacité de jeûner 2 mois consécutifs, parce que dans une version du hadith, cet homme-là avait beaucoup de désirs et de besoins de ses épouses. Et Il a dit au prophète alayhi salatu wa salam, yani, est-ce que j'ai commis cela si ce n'est dans la journée de Ramadan? C'est-à-dire, comment pourrais-je réussir à tenir 2 mois consécutifs? Il n'a pas la capacité. Celui qui n'a pas la capacité doit nourrir 60 pauvres. C'est-à-dire donner un repas qui rassasie chacune de ces 60 personnes. Ou leur acheter à manger, ou leur donner de la nourriture non préparée. Si il est pauvre et n'a pas la capacité de faire cela, naam, l'expiation tombe. En attendant qu'il ait les moyens de s'en acquitter. Selon certains savants. Et d'autres disent, si à ce moment-là, il n'a pas les moyens, alors l'expiation est tombée. Et si une personne lui fait une sadaqa, ou lui donne pour qu'il puisse l'accomplir, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Comme a fait le prophète, alayhi salat wa salam, ici, avec lui. Qui est concerné par l'expiation? Celui qui a provoqué le rapport et celui qui a accepté le rapport sans être contraint et forcé. Donc l'homme et la femme ont l'expiation à faire. L'homme et la femme ont l'expiation à faire. N'est pas concerné par cette expiation celui qui ne savait pas que le Fajr était entré. Mais une fois l'information reçue, il a l'obligation de se retirer immédiatement. S'il continue, il aura annulé son jeûne. N'est pas concerné celui qui pensait que le soleil était couché sans négligence. N'est pas concerné celui qui rattrape, et celle qui rattrape ses jours de jeûne après le mois de Ramadan. Cela concerne que celui qui est en état de jeûne dans le mois de Ramadan et qui avait l'obligation de jeûner. Donc, si ce sont des jours rattrapés en dehors du mois de Ramadan, la personne n'a pas cette expiation parce que cette expiation est due à l'importance du mois et de ce moment, à la sacralité du mois, au respect du mois. Barakallahu fikoum. Enfin, cette expiation n'est pas due à celui qui n'a pas l'obligation de jeûner. Par exemple, le voyageur. Il est en voyage, il jeûne. Mais il n'a pas l'obligation de jeûner. Donc s'il a un rapport avec son épouse, eh ben, il n'a pas d'expiation. Cela leur est licite. Ils ont rompu le jeûne, ils doivent rattraper ce jour-là, tout simplement. À partir de quand le rapport sera effectif, donc, le péché, l'annulation du jeûne et l'expiation due. À partir du moment où l'homme entre la partie circoncise en la femme, dès lors qu'il fait cela, il a annulé son jeûne. Elle a annulé son jeûne. L'interdiction a été bravée. Le repentir, l'expiation due. Voici les annulatifs du jeûne que tout musulman et toute musulmane doivent apprendre, comprendre et connaître. Et comme a dit Aïcha radiallahu anha, qu'Allah fasse miséricorde aux femmes des compagnons ou bien des muhajiroun. Leur pudeur ne les empêchait pas d'interroger le prophète alayhi salatu wassalam. Et comme a dit cette noble femme des Ansar, Ummu Sulaym radiallahu anha, Ya Rasulallah, inna Allah la yastahi min al-haq. Hal ala al-mar'ati ghuslun idha hiya ihtalamat. Ô messager d'Allah, certes Allah n'a pas honte de la vérité. Puis elle a posé une question où il y a une certaine gêne due à l'intimité. Pour finir, la personne qui commet un des annulatifs du jeûne n'aura pas rompu son jeûne ni annulé son état de jeûne dans trois cas. En d'autres termes, il y a trois conditions pour qu'on considère que celui qui est tombé dans un annulatif est annulé son jeûne. Est annulé son jeûne. La première condition, l'ilm, la science. Il doit savoir que telle action annule le jeûne. S'il est ignorant et qu'il a bu, par exemple, en pensant que le jeûne, c'est un nouveau converti. Imaginons un nouveau converti à l'islam. Il pense que le jeûne, c'est juste s'abstenir de manger, mais pas de boire. Alors lui, il se permet de boire. Ou bien il pense que le jeûne, c'est que le matin. Et l'après-midi, il se met à manger et à boire. Puis il rencontre des gens, ils lui disent, mais pourquoi est-ce que tu manges et tu bois? Il dit, ben parce que le jeûne, c'est que le matin, non? On lui dit, non, c'est jusqu'au coucher du soleil. Il dit, ah, je ne savais pas. Alors il reprend son jeûne, et son jeûne est valable. Pourquoi? Parce qu'il était ignorant. Il était ignorant. S'il ne sait pas qu'un des annulatifs du jeûne est un annulatif, naam, il est excusé. Il est excusé. Quelle que soit la chose mangée, la chose bue, barakallahu fikum. La deuxième condition, après le fait de savoir que telle chose fait partie des annulatifs, ayakuna dhakiran, c'est qu'il se rappelle qu'il est en état de jeûne. S'il a mangé ou bu ou commis un annulatif par oubli, il est excusé. Il poursuit son jeûne dès lors qu'il s'en souvient ou qu'on lui fait le rappel. Et il retire, s'il a quelque chose dans sa bouche, il le retire, et son jeûne est valable. Donc, le fait de se rappeler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui est en état de jeûne, puis oublie, mange ou boit, fa inna mat'amahu Allah wa saqahu, falyutimma sawma. Celui qui est en état de jeûne, qui a oublié, il mange ou il boit, qu'il poursuive son jeûne, parce que c'est Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé, qu'il poursuive son jeûne. Donc, l'oubli, il mange, il boit, et ainsi de suite. Il ne doit pas se dire, ah, j'ai cassé mon jeûne, alors je peux continuer le reste de la journée. Non. C'était par oubli, il n'a pas de péché. Il s'arrête immédiatement dès lors qu'on lui fait le rappel. Il poursuit son jeûne est valable. Mais il fait attention à l'avenir. Et celui qui voit a l'obligation de faire le rappel. Naam. La troisième condition, c'est l'amd, c'est le fait de faire cela volontairement. Quant à celui, une chose est rentrée dans sa bouche, il l'a avalée involontairement, ou on l'a forcé, on l'a attrapé, on lui a mis quelque chose dans la bouche, jusqu'à ce qu'il ait avalé, ceci n'annule pas son jeûne parce qu'il a été contraint. Donc voici les trois conditions. La science, le se souvenir de l'état de jeûne et le fait de faire volontairement. Quant à celui qui a fait ça par ignorance, par oubli ou par contrainte, celui-ci est excusé, il poursuit son jeûne. Mais dès lors qu'on lui fait le rappel, il arrête. Voici ce qu'Allah Azza wa Jal nous a facilité pour ce sujet. Wallahu a'lam. Wa sallallahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين وللمسلمات وللأحياء منهم وللأموات إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغرنا بفضلك عن من سواك اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين واقض الديون عن المدينين وانصر المستضعفين في كل مكان يا رحيم يا قوي يا متين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اصلح حوالنا، اللهم اصلح زوجاتنا، اللهم اصلح أولادنا وذرياتنا، اللهم احفظ علماءنا وارحم موتاهم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Un de nos pèlerins, ayant voyagé avec nous au mois de décembre, le frère Ibrahim Khalil, il m'est parvenu qu'il est décédé des suites d'un accident. On demande à Allah Azza wa Jal, il a été enterré, on demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala de lui faire miséricorde. On se joint à la tristesse de son épouse et on demande à Allah Azza wa Jal de la raffermir sur la vérité, de lui accorder l'endurance dans cette épreuve, de penser ses plaies, ses douleurs. Et c'est lui, le Al-Jabbar, Al-Rahim, Al-Latif. Aussi, un de nos chers frères de Duni, le frère Norman, un noble frère à nous, est touché d'une maladie. On demande à Allah Azza wa Jal de lui accorder la rémission, la guérison et l'énorme récompense des endurants. Tout comme on demande à Allah Azza wa Jal de faire miséricorde à nos parents décédés et d'accorder la guérison à nos parents malades. On demande à Allah Azza wa Jal d'accorder la guérison à chacun de vos malades et de leur permettre d'atteindre beaucoup de Ramadanat. Al-Walid, Shafahullah. Et j'ai dans mes pensées beaucoup de parents que je connais malades. Vient dans mes pensées le papa Ayad, Hafidahullah Ta'ala, qu'Allah lui accorde la guérison, et lui permette d'atteindre beaucoup de Ramadanat, de voir encore sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, qu'Allah les préserve. et beaucoup d'autres familles qu'on ne pourrait énumérer ont des malades. Voici une excellente occasion qu'est le mois de Ramadan pour invoquer pour vous-même, pour vos familles, pour vos proches, pour ceux que vous connaissez. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yashfiahum. La mère de notre frère Mohammed de Noisy-le-Sec, as'Allah yashfiaha, wa yutawwil umraha, qu'Allah allonge sa vie, qu'Allah lui fasse miséricorde et lui accorde la guérison, na'am, et beaucoup d'autres personnes qu'on ne pourrait énumérer. Jazakumullahu khayran, waffaqanallahu wa iyyakum, c'est un mois de dua, faites beaucoup de dua. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته